Chapitre 6, le club des bonnets de soie noire. Dans une de ces rues froides et tranquilles comme des rues de province qui avoisinaient l'observatoire et qui viennent d'être démolies pour le tracé du boulevard de Port-Royal, il y avait encore en 1866 un petit café à la devanture décente où se réunissaient le soir quelques bons bourgeois et rentiers de ce quartier savant. Il s'appelait le café Massenet, du nom de son propriétaire, ancien balayeur au bureau des longitudes, et qui posait auprès de ses clients pour un mathématicien démissionnaire. Monsieur Massenet en avait bien l'air. C'était un homme court, grave, essoufflé, qui fumait sa pipe du matin au soir, en escarpin et en cravate blanche. Sa femme qui tenait le comptoir était âgée, maigre et très longue. Elle avait le sourire agréable, quoiqu'il lui manquât bon nombre de dents. Celle qui restait ne valait pas la défunte. Le café Massenet se composait d'un billard, le seul dans Paris où l'on put voir encore des blouses à filets, une assez grande salle dévolue aux habitués et consommateurs, et un salon de médiocre étendue entouré de divans à couverture de cuir éraillé où ces messieurs seuls avaient le droit d'entrer. Le salon de ces messieurs était séparé de la salle commune par un couloir assez long fermé aux deux bouts. Par surcroît de précaution, la seconde porte qui donnait dans le salon de ces messieurs était double, la vraie porte se trouvant défendue par un second battant rembourré. Vis-à-vis de cette porte, une haute fenêtre donnait sur une ruelle déserte, mais comme ces messieurs ne se rassemblaient jamais qu'après la nuit tombée, la fenêtre, toujours close, était en outre défendue par de forts volets. Ces messieurs n'étaient pourtant pas des conspirateurs. Les habitués de la salle commune les connaissaient fort bien et prenaient volontiers la demi-tasse avec eux, mais ils avaient des affaires à traiter qui ne regardaient qu'eux-mêmes, et ils se rassemblaient dans ce but. Rien de plus simple. De compte fait, ils pouvaient être une douzaine. On ne les avait pas vus souvent réunis au grand complet. En tête des plus assidus était Monsieur Geoffrey, ou mieux le bon Geoffrey, propriétaire rue de la Sorbonne, qui faisait un peu l'escompte, d'autres disaient l'usure. Il se rendait toutes les après-midi au jardin du Luxembourg, pour jeter de la mie de pain aux petits oiseaux, ce qui est, tout le monde vous l'affirmera, la preuve d'un excellent cœur. Après lui venait M. Comérol, homme d'affaires, connu par ses lunettes d'or et sa brillante élocution méridionale, le docteur Samuel, philanthrope qui soignait les pauvres pourvu qu'on le payât, et un brave bonhomme, désigné sous le nom du prince, qui n'avait pas de profession connue. Les autres allaient et venaient. Les habitués de la salle commune et du billard à blouse appelaient la réunion de ces messieurs le club des bonnets de soie noire. À cause du bon Geoffrey et du prince qui rabattaient volontiers cette coiffure commode sur leurs oreilles dans la crainte des courants d'air. Aucun des membres du club des bonnets de soie noire n'était jeune, mais Comérol arborait des gilets d'étudiants et portait ses lunettes d'or d'un air vainqueur qui voulait dire « Je suis loin d'avoir renoncé à plaire » et le joli vicomte Annibal Guillaujat que nous avons omis de citer avait les cheveux teints plus noirs que l'aile du corbeau. Il était environ 7 heures du soir. Dans le petit salon réservé à ces messieurs, deux membres seulement du club des bonnets de soie noire étaient réunis, à savoir le prince, qui portait la coiffure sacramentelle et lisait le journal des villes et des campagnes en prenant son gloria, et le docteur Samuel, qui ne prenait rien et tournait ses pouces à l'autre bout du divan. Il est bon de dire tout de suite, afin que ce titre de prince ne soit pas pris pour un sobriquet, que le bonhomme occupé à lire son journal était tout simplement le fils du malheureux Louis XVII. Sa figure, éminemment débonnaire et affectant la courbe bourbonienne, aurait suffi à indiquer son illustre origine s'il n'eût porté, dans une vaste serviette qu'il avait toujours en poche, une collection de preuves à faire dresser les cheveux. Lettre du pape, lettre de Louis-Philippe, lettre de Monsieur le duc de La Rochefoucauld, lettre de la femme du geôlier Simon, lettre de Charles-Albert, lettre de Talleyrand, lettre de Chateaubriand, de Lamartine, du général Cavaignac, de Monsieur Gisquet, lettre de tout le monde. plus des attestations, des procès-verbaux, des extraits de registres, le testament de son infortuné père, mort sous le nom de duc de Richemont, et la liste de plus de 100 familles nobles de Paris et de province, prêtes à prendre les armes au premier appel de sa voix légitime. Ces diverses pièces avaient déjà servi à plusieurs princes. Les gens qui connaissaient peu ou prou les affaires des habits noirs disaient que ce brave bonhomme était pour le moins le cinquième fils de Louis XVII, les quatre autres ayant fini malheureusement dans l'exercice de leurs fonctions au service de la compagnie. Chaque fois qu'il en mourait un, on cherchait une honnête figure aquiline à front fuyant, planté sur un torse bien nourri, on rassemblait les pièces éparpillées du dossier, et le nouvel héritier de la couronne de France apparaissait à l'horizon sous le dicton historique « Le roi est mort, vive le roi ». Bien que les habits noirs fussent considérablement déchus, à l'époque où se passe notre histoire, ils trouvaient encore moyen de faire ça et là quelques petites affaires, et le fils de Louis XVII était pour eux un outil indispensable. On exciterait l'incrédulité en additionnant les chiffres fournis par les innombrables extorsions opérées dans les faubourgs Saint-Germain de Paris et des départements à l'aide de cette imposture qui a eu plus de tête que l'hydre de Lerne, l'existence d'un fils de Louis XVI échappé de la prison de l'Abbaye. Les habits noirs, toujours ingénieux, avaient inventé le fils de ce fils pour la commodité des dates. Le club des bonnets de soie noire, nous sommes bien forcés de l'avouer, était tout ce qui restait de cette terrible association remontant à Fra Diavolo et qui, sous le règne du colonel, avait effrayé l'Europe par tant de drames sanglants. Les derniers habits noirs étaient ces messieurs, ou plutôt ces messieurs formaient le conseil de maîtrise des derniers habits noirs, car vous eussiez encore trouvé dans les bas-fonds de Paris bon nombre d'affiliés du « fera-t-il jour demain ?». Et quand il s'agissait de mettre à exécution quelques razzias bien organisées, les manœuvriers ne manquaient pas à ces vénérables directeurs. « Il paraît, dit le prince, que l'empereur Alexandre va changer l'uniforme de ses lanciers là-bas, en Moscovie. » Le docteur Samuel s'obstinait à tourner ses pouces et ne répondit pas. Le prince continua sa lecture. Au bout de 10 minutes, il reprit « Il paraît que ces fusils à aiguilles de Sadova étaient déjà exposés au palais de l'industrie en 1855. Les ingénieurs qui sortent de l'école polytechnique avaient déclaré que cela ne valait rien du tout. Les Prussiens en ont fait fabriquer parce qu'ils n'ont pas d'élèves de l'école polytechnique. « Ça court les rues, » gronda le docteur Samuel, vieil homme très laid et de méchante figure. « L'école polytechnique n'en fait pas d'autre. » J'étais un jour à Saint-Malo, où les ponts et chaussées venaient de construire une jetée qui coûtait je ne sais plus combien de millions. La mer était grosse, un trois-mâts hollandais dérivait sur la jetée que l'école avait déclaré chef-d'œuvre. Tout le monde était là, du haut des remparts, à plaindre le trois-mâts et à dire « le malheureux va se briser en pièces ». Il donna contre la jetée en plein, et savez-vous ce qui arriva ?« Non, » dit le prince, dont les petits yeux s'écarquillèrent curieusement. Le Hollandais n'eut pas de mal, continua le docteur Samuel, mais la jetée de l'école polytechnique s'effondra et tomba dans l'eau, où elle l'est encore et plus chef-d'œuvre que jamais. Le prince resta d'abord immobile, puis il battit des mains en poussant un large éclat de rire. Ah, fit-il, je comprends, on en met dans les journaux qui ne sont pas si drôles que celles-là. Il regarda le docteur par-dessus son pince-nez et ajouta en abaissant la voix. « Il paraît qu'il fera jour cette nuit. »« Il paraît, » répéta Samuel. Et tous les deux rentrèrent dans le silence. Pendant ce temps, un bruit léger se fit du côté de la fenêtre. On eût dit que quelqu'un en caressait au dehors les contrevents épais. Nos deux compagnons prêtèrent l'oreille, mais le bruit cessa au bout d'un moment. « Est-ce que vous étiez du temps des moines de la Merci, vous, docteur ?» demanda tout à coup le prince. « Oui, » répondit Samuel. Ah, vous avez vu tout ce qu'on raconte des souterrains là-bas, du côté de Sartène, en Corse. Les habits noirs étaient des lapins à cette époque-là. Moi, je suis nouveau, et je n'ai pas encore eu la chance de partager dans une vraie affaire. Il n'y a plus de vraies affaires, dit Samuel avec humeur. Avez-vous connu Toulonnais l'amitié, vous? « Oui, » répondit encore Samuel, qui cette fois cessa de tourner ses pouces. « J'ai connu Monsieur Lecoq, on n'en fait plus comme cela. Et j'ai connu le comte Corona, Jean-Baptiste Schwarz, le colonel, et Marguerite de Bourgogne, une rude femme. Mais après cela, plus rien. C'est égal, dit le prince. Vous devez avoir de jolies économies. Mais pourquoi diable avez-vous choisi cet oiseau d'animal guilloja pour lui donner le scapulaire? Samuel haussa les épaules. S'il venait un homme, commença-t-il. Il s'arrêta et acheva entre ses dents. Il n'y a plus d'homme. Le prince était en appétit de causer. Vous avez pourtant Geoffrey, dit-il. C'est un garçon d'un million et demi pour le moins, sans que ça paraisse. Geoffrey est riche, approuva laconiquement le docteur. Vous avez monsieur Commérol qui a la langue bien pendue. Samuel fit un geste de dédain. Nous sommes vieux, dit-il, on ne peut pas être et avoir été. Bah, fit le fils de Louis XVII, notre fameux colonel avait 107 ans. À ce moment, une voix retentissante sonna dans le corridor. Un petit punch au kirsch pour nous deux, le bon Geoffrey, commanda-t-elle. Est-ce que tous nos amis sont arrivés? Ah, deux seulement. Ah, les paresseux. S'il vient un quidam demander monsieur Geoffrey, propriétaire de la part du nommé Amédée 6 000 or, faites-le entrer, eh? La porte s'ouvrit et Commérol Junior, ancien premier clerc de l'étude de banc, montra ses flamboyantes lunettes d'or. Dans un autre récit, nous avons pu apprécier la belle prestance et les talents de Commérol. Il n'y avait pas en lui peut-être l'étoffe d'un premier ministre, mais c'était du moins un chef de bureau très distingué. Son âge, un peu plus que mûr, tenait abondamment les promesses de sa 30e année. Il était chauve avec ostentation, il était gras, et malgré le proverbe des gens du Midi qui dit « ceux qui engraissent sont morts », il se portait à merveille. Toujours bien tenu, du reste, linge blanc, bagues aux doigts et chaînes de montre magnifiques ruisselant sur un gilet de velours qui lançait des rayons. Avec le temps, le contraste avait augmenté entre lui et le bon Geoffrey, douce créature. Geoffrey marchait, humble, tremblotant, chauve aussi, mais ramenant quelques mèches honteuses sur le sommet de son crâne pointu. Je vous présente le plus joli sac de la confrérie, dit Commérol, qui entra tenant Geoffrey par la main. Quand nous n'aurons plus rien à nous mettre sous la dent, je proposerai une affaire au conseil. Ce sera d'aller voir un peu s'il fait jour dans le coffre-fort de notre bon Geoffrey. Le prince, qui s'était levé, éclata de rire bonnement, et le docteur Samuel lui-même se dérida. Mais Geoffrey fit un pas en arrière et dit avec une irritation sénile, Monsieur Commérol, vous passez les bornes. Mon âge et ma position sociale devraient me défendre contre vos polissonneries. Commérol se retourna, toujours bon enfant, le saisit à bras-le-corps et le porta jusque sur le divan en disant « Pas plus lourd qu'un petit paquet de bois sec ». La porte s'ouvrit de nouveau, donnant passage à une autre ruine, précieuse celle-là et supérieurement entretenue. Du jais, de l'ivoire et des roses, tels étaient les matériaux de cette idole vieillie, le vicomte Annibal Gioja des Marquis Palante. Verni de haut en bas, dit le joyeux Commérol en lui tendant la main. Annibal, quand donc me donneras-tu l'adresse de ton embaumeur? Le brillant Napolitain ne daigna pas répondre, mais Geoffrey dit en rabattant son bonnet de soie noire sur ses longues oreilles frileuses, mauvais temps, toujours mauvais temps cette année. Commérol était allé s'asseoir auprès du docteur Samuel. Mon prince, dit-il de loin au fils de Louis XVII, depuis que vous avez hérité de vos droits divins à la couronne de Saint-Louis, on ne vous a encore fait jouer aucun air varié avec escalade et effraction, eh? Le prince épaissit le masque idiot qui était à demeure sur son visage et répondit avec un sourire content, Il paraît que ça va chauffer, monsieur Commérol. Parlons raison, mes brebis, reprit celui-ci. Le vicomte Annibal est un savoyard et un sucre candi, et s'il a le scapulaire, c'est pour la forme. La véritable tête de l'association, en l'absence d'un plus digne, c'est le bon Geoffrey, un peu entamé par l'âge et les infirmités, mais qui marche encore assez droit quand je suis là pour lui donner le bras. L'histoire de notre Brésilien commence à être mûre. Geoffrey et moi, nous avons inondé le noble faubourg de ses actions. en présentant l'entreprise comme destinée à envoyer au paras tous les démagogues de France et de Navarre, transformés en propriétaires sages comme des images. À l'estime de Geoffrey, monsieur le duc de Chavez doit avoir 2 millions en caisse, pour le moins. « Il m'a en effet parlé de 2 millions, dit le vicomte Annibal. » Geoffrey le regarda de travers en murmurant « Vous savez que vous n'avez pas le droit de toucher à ce gâteau, vous, bel homme. »« Je pense être au-dessus du soupçon, » répondit fièrement Annibal. « En tout cas, monsieur le duc est d'une honnêteté antique à l'endroit des affaires. Hier, il a emprunté 2 000 louis plutôt que de toucher au contenu de sa caisse commerciale. Je conçois, mes très chers, que ma position de confiance intime auprès de son Excellence vous inspire quelques jalousies, ou même quelques inquiétudes. Nous sommes ensemble, le duc et moi, comme les deux doigts de la main, mais il ne faut pas oublier que vous me devez cette affaire, et que sans moi, les piastres brésiliennes vous passaient sous le nez. « Tu es un ange, Annibal, dit Comérol. Messieurs, autre chose. » Quelqu'un de vous se souvient-il d'un drôle appelé Similor, qui fut employé différentes fois comme auxiliaire, notamment dans l'affaire Jean-Baptiste Schwartz et dans l'affaire de l'hôtel de Claire? Le bon Geoffrey seul avait un vague souvenir de notre ami. En deux mots, qu'est-ce que c'est que Similor? Demanda le docteur Samuel. C'est un va-nu-pied, répondit Comérol. Pourquoi nous parlez-vous de ce va-nu-pied? Parce qu'il ne faut rien négliger, répliqua l'ancien clerc de notaire. Similor est venu vers moi aujourd'hui et m'a rappelé ses états de service. J'ai cru d'abord qu'il voulait un secours, mais non, son désir était seulement de nous mettre en rapport avec un fils qu'il a et qu'il déclare être un brillant sujet. Je lui ai dit qu'il pouvait envoyer son fils, mais dans l'intervalle j'ai pris des renseignements et je ne fais pas un fond énorme sur l'affaire. Au bureau de notre ancienne agence, où tous nos hommes sont classés et numérotés, on ne connaît pas d'autre fils au nommé Similor que le nommé Saladin, ancien artiste en foire et avaleur de sabre. « Joli recrue, » fut-il dit à la ronde. Le garçon du café Massenet apporta le punch au quiche commandé. Quand il eut déposé le plateau sur une table, il tira de sa poche une large carte en porcelaine qu'il remit dans les mains de Comérol. « Marquis de Rosenthal, » lut l'ancien clerc de notaire, « ne connaît pas. Ce monsieur est là ?»« Oui, » répondit le garçon, « il vient de la part de son père. » Les membres du club des bonnets de soie noire échangèrent entre eux des regards indécis. « C'est peut-être le fils de ce Similor, » murmura Geoffrey. « Faites entrer, » dit Comérol, « nous verrons bien. » L'instant d'après, un jeune homme habillé à la dernière mode, lorgnon sur l'œil, cheveux séparés derrière la tête, col brisé comme une carte de visite qu'on laisse chez les concierges, petite jaquette boudin, pantalon demi-collant, chapeau bas, gants rouges et stick à bec de corbin, entra dans le cénacle à petits pas et vint jusqu'au centre de la chambre où il s'arraigna pour lorgner curieusement les assistants. Le garçon s'était retiré. Le bon Geoffrey prit la peine d'aller voir lui-même si les portes étaient bien fermées. « Monsieur, dit le nouvel arrivant, je suis bien votre serviteur. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Comme j'ai besoin de quelques collaborateurs pour une petite opération présentant d'assez beaux bénéfices, j'ai songé à m'adresser à vous. Mon domestique se trouvait être de votre connaissance. Il m'a indiqué un certain monsieur Comérol. Lequel d'entre vous, s'il vous plaît, est monsieur Comérol ?» « C'est moi, » répliqua l'ancien clerc de notaire, « mais il ne s'agit pas de votre domestique, monsieur le marquis. Vous faites erreur. Je n'ai vu que monsieur votre père. » Saladin lui tendit le doigt avec une si parfaite insolence que les membres du club eurent un sourire involontaire d'approbation. « Mon père, dit-il du bout des lèvres, mon domestique, c'est tout un, cher monsieur Comérol. Le maraud dont vous me faites l'honneur de parler cumule ces deux fonctions auprès de ma personne. » Monsieur le marquis de Rosenthal, ayant prononcé ces paroles remarquables, prit un siège et vint se placer en face du divan où étaient Comérol et le bon Geoffrey. « Messieurs, poursuivit-il d'un ton décent et plein de modestie, vous êtes une association illustre, et moi je ne suis qu'un simple paltoquet, et c'est pourquoi il était bien naturel que je fisse toilette pour avoir l'honneur de me présenter devant vous. Toilette de corps, toilette d'esprit, toilette de situation. Je ne m'habille pas comme cela tous les jours. Je me suis préparé comme un candidat qui va passer son examen, et j'ai choisi, pour la circonstance, le plus joli de tous mes noms. Vous aurez, je l'espère, quelque indulgence en faveur d'un néophyte qui vous veut le plus grand bien, mais qui ne va pas pousser la courtoisie jusqu'à vous dire hypocritement que, selon lui, sa jeunesse ne vaut pas votre décrépitude. « Vaillajou !» s'écria Commérol. « Nous ne détestons pas la plaisanterie, monsieur Saladin, mais nous avons autre chose à faire ici que de vous voir valer des sabres. » Le prince et le docteur Samuel s'étaient rapprochés. Le vicomte Guilloja se tenait à l'écart d'un air superbe. « Je suis flatté, dit Saladin, en mordillant le bec de son stick, que vous ayez pris la peine de rassembler quelques informations sur ma personne. J'en vaux la peine, soit dit sans fausse modestie, et j'espère vous le prouver bientôt abondamment. Vous végétez depuis bien des années déjà, mes chers messieurs, vous n'avez pas de chef. Je pense vous en avoir trouvé un. » « Il a du talent comme orateur, dit le fils de Louis XVII à demi-voix. « Où veut en venir ce garçon ?» demanda Guilloja de l'autre bout de la chambre. « Je crois, dit Saladin, en se retournant vers lui poliment, que j'ai l'avantage de parler au valet de cœur de monsieur le duc de Chavez. » « Tiens, tiens, murmura Commérol, qui dressa l'oreille. « Mon petit monsieur, commença Guilloja avec hauteur, « Chut !» fit Saladin doucement, « nous reviendrons tout à l'heure au rôle honorable que vous jouez auprès de monsieur le duc et qui pourrait éventuellement gêner les affaires de l'association. C'est vous qui avez le scapulaire ?» Guilloja ne répondit pas. Les autres membres du club se regardaient d'un air véritablement étonné. « J'ai fréquenté les bureaux de la préfecture, dit le marquis de Rosenthal, entre parenthèses, en amateur et pour perfectionner mon éducation. Je suis un peu docteur en toute faculté, et c'est parfaitement vos petites histoires. Vous n'êtes pas venu ici pour nous menacer, dites donc, prononça Commérol, dont la joue sanguine prit une nuance rouge plus foncée. Geoffrey lui toucha le bras et murmura, « S'il m'intéresse. » « Mon cher monsieur, répondit Saladin en s'adressant à Commérol, je suis une nature indépendante et je désire faire mon chemin en dehors de l'administration. Seulement, il me plaît de vous faire savoir tout de suite que je suis gardé à carreau. Vous me voyez seul, vous êtes cinq, il est bon que la liberté de discussion soit entre nous pleinement assurée. « Eh bien, dit Commérol avec une rudesse contenue, entamons la discussion, je vous prie, rondement. » « De tout cœur, répondit Saladin. Seulement, on n'a pas répondu à la question que j'ai faite. Est-ce le vicomte Annibal Guilloja qui est le maître du scapulaire ?»« C'est ici le secret même de notre confrérie, fit observer le docteur Samuel, qui n'avait pas encore parlé. Saladin le salua. « Messieurs, reprit-il, le scapulaire est votre sceptre, je connais cela, et bien d'autres choses. Quoique je ne vois aucune de ces grandes physionomies qui ont illustré l'histoire ancienne de votre ordre, j'aurais quelque répugnance à poser ma candidature en face de personnages tels que messieurs Geoffrey, Commérol et Samuel, qui sont à tout le moins très capables et très expérimentés. Vous êtes bien bon, grommela l'ancien clerc de notaire. » « Je parle comme je pense, mais s'il ne s'agit que de détrôner ce faquin, les choses changent, et je vous dis franchement qu'une société comme la vôtre ne doit pas avoir pour gérant un homme de paille. » Annibal Guilloja jeta le journal qu'il tenait à la main et fit un pas vers Saladin. Le bon Geoffrey l'arrêta du geste en disant « Mon cher bon enfant, laissez parler l'orateur. » « D'autant mieux, reprit Saladin en se tournant vers Guilloja, que l'orateur causera avec vous en tête à tête quand ce sera votre bon plaisir. » Le bon Geoffrey prit encore la parole. « Mon cher monsieur, dit-il, je vous ferai observer que nos réunions sont toujours paisibles. » « Il faut, mon cher monsieur, interrompit Saladin, que vos réunions redeviennent fructueuses, comme elles l'étaient autrefois. Je compte apporter ici, il faut bien vous le dire, un peu de ce sang jeune et actif qui coule dans mes veines. Mon intention, pourquoi vous le cacherais-je, est de restaurer la grande famille des habits noirs. » Il y eut un mouvement, comme on dit dans le compte-rendu des séances parlementaires, et le fils de Louis XVII s'écria malgré lui « Écoutez, morbleu, écoutez !»« J'ai beau écouter, gronda Commérol, le fils de ce coquin de Similor est aussi bavard que son père. Il a beaucoup parlé, mais que je sache, il n'a encore rien dit. » « Le fait est que c'est bien vague, » murmura le bon Geoffrey. « Bien vague, bien vague. » « Je vais préciser, » reprit Saladin, « soyez tranquille. Mais avant d'entrer en matière, il serait bon de balayer le terrain. Tenez-vous au Guilloja, oui ou non ?»« Non, » répondirent à la fois tous les membres présents, excepté Guilloja lui-même. « Donneriez-vous le scapulaire, » continua Saladin, « à un jeune homme de courage et d'espérance qui vous apporterait comme prime de ce joyeux avènement une affaire toute faite de 1 500 000 francs comptant, sans escompte ni retenue ?» Il y eut un mouvement d'hésitation, puis Commérol répondit « c'est selon. »« C'est selon, » répéta paternellement le bon Geoffrey, « selon, selon, selon. » Le prince et le docteur approuvèrent du bonnet. « Vous comprenez, » reprit Commérol, « qu'il y a des épreuves, des garanties. »« Il ne suffit pas, » ajouta le vicomte Hannibal avec un amer mépris, « de savoir avaler des sabres. » Saladin sauta sur cette interruption comme sur une proie. « Messieurs, » s'écria-t-il en se levant et en passant sa main dans l'entournure de son gilet, « dans notre ordre social, depuis le plus infime degré de l'échelle jusqu'au plus élevé, permettez-moi de vous le dire, je ne vois partout qu'avaleurs de sabre. Le monarque prussien attirant l'Autriche dans la guerre contre le Danemark. « Écoutez, » fit le prince, vivement intéressé. Au contraire, Commérol s'écria « Mon bon, ne nous occupons pas ici de politique, hein ?» Et Geoffrey ajouta d'un accent plaintif « Le cher jeune homme avait préparé une tirade, gare. » Le candidat électoral faisant sa profession de foi, voulut poursuivre Saladin, le ministre équilibrant le budget, les rois gênés qui enfilent des tirages comme des perles autour de leurs emprunts, et les philanthropes qui vous forcent à vous assurer sur la vie, déclama Commérol en imitant son accent. Et donc, pécaïre, et les apôtres qui arrachent les dents avec un pistolet. Et les bons cœurs privés de capitaux qui déclament contre l'usure, insinua le bon Geoffrey. Et les anciens de Clichy qui ont mis la lance en arrêt contre la contrainte par corps, glissa le docteur Samuel. Avaleur de sabre, s'écria le prince, enchanté, avaleur de sabre. Tout le monde répéta triomphalement en regardant Saladin « Ah, valeur de sabre !» Monsieur le marquis de Rosenthal avait été d'abord légèrement déconcerté, mais à la fin de la manifestation, il avait repris son sourire vainqueur. Il frappa l'un contre l'autre ses gants sang de bœuf et dit « Bravo, mes chers seigneurs, vous êtes moins vieux que je ne croyais, et vous avez sabré ma chanson avec infiniment d'esprit. Bravo, encore et tant mieux. Entre gens d'esprit, on a moins de peine à se comprendre. Venons donc au fait. Demain, monsieur le duc de Chavès, déjà nommé, aura dans son hôtel du Faubourg Saint-Honoré une somme ronde de 1 500 000 francs. « Vous vous trompez, mon petit monsieur, » s'empressa de dire Hannibal Guilloja. « La somme ronde est de 2 millions. » Saladin se tourna vers lui avec lenteur. « Ah, » fit-il. Puis son regard revint vers le groupe qui lui faisait face comme pour demander « Est-ce vrai ?» Commérol lui adressa un petit signe de tête moqueur que le bon Geoffrey traduisit ainsi « Cher jeune homme, vous avez personnellement toutes mes sympathies, mais vous arrivez un peu trop tard. » Saladin resta un instant pensif, puis se demanda tout haut à lui-même « Il y aurait donc à l'hôtel de Chavès 3 500 000 francs ?» « C'est 100 000 piastres que vous vouliez glisser dans votre poche, » dit Hannibal Guilloja, qui n'avait pas entendu sa dernière observation. « Comment ? » s'écria au contraire Commérol, « 3 500 000 francs, où prenez-vous ce calcul ?»« Je suis sûr du chiffre de 1 500 000 francs, » répéta Saladin. « Vous paraissez être sûr du chiffre de 2 millions, les deux sommes doivent être distinctes, évidemment. » Geoffrey dressa l'oreille comme un bon cheval de bataille qui entend le son de la trompette. « Il a du talent, » répéta-t-il. « Tirons la chose au clair. D'où viennent vos 1 500 000 francs, jeune homme ?»« Du Brésil, » répondit Saladin sans hésiter. « Et maintenant que j'y songe, vos 2 millions doivent venir de Paris. »« J'ai deviné, ajouta-t-il, interprétant comme une réponse le jeu des physionomies qui l'entouraient. Avez-vous les moyens de vous appliquer les 2 millions ? Commérol eut un geste noble. Nous ne sommes pas tout à fait des manchots, monsieur le marquis, répondit-il. Je précise, insista Saladin, nous ne plaisantons plus, mes maîtres. Pouvez-vous regarder les 2 millions comme étant dès à présent à votre avoir ? Ah, vous hésitez. Donc vous cherchez encore. Ne cherchez plus. Quand je dis j'apporte une affaire, c'est que j'apporte l'affaire faite. Il appuya sur ce dernier mot et ses yeux ronds firent le tour de l'assistance, piquant chacun d'un regard perçant et froid. Geoffrey, Commérol et le docteur avaient l'air étonnés. Guilloja baissa les yeux. Le prince se frotta les mains et cria tout seul « Très bien, ça me va !» Qu'il y ait 1 500 000 francs comme je l'ai cru, ou 3 500 000 francs comme c'est désormais l'apparence, continua Saladin, je dis que l'affaire est faite, puisqu'à partir de demain, je puis introduire à l'hôtel de Chavès autant d'hommes que vous le voudrez, à l'heure de jour ou de nuit que vous choisirez. Peste, fit le bon Geoffrey, c'est bien gentil de votre part, mon cher enfant. Quel est votre moyen ? Demanda Commérol. Je sollicite la permission, repartit Saladin, de la garder pour moi jusqu'au moment où nous aurons conclu notre arrangement. Pour conclure un arrangement, il faut savoir, que diable ! Ne tombons pas dans un cercle vicieux, dit Saladin, dont la voix reprit une autorité véritable. D'ailleurs, nous n'avons pas achevé les préliminaires. En qualité de maître, de père, puisque c'est votre mot, je prétends avoir la part du lion, et je ne travaillerai que si je suis le maître. « C'est carré, » dit Commérol. « Il est franc comme l'or, » appuya le bon Geoffrey. « Qu'entendez-vous par la part du lion ?» demanda le docteur Samuel. « S'il s'était agi seulement de mes 1 500 000 francs, » répondit Saladin, « j'aurais exigé la moitié. »« À la bonne heure !» s'écria l'assistance en chœur. « Moitié, ne nous gênons pas !» Mais, poursuivit Saladin, « puisqu'il y a en outre les 2 millions, chacun de nous gardera sa part. » Vous aurez, vous, les 2 millions, et j'aurai, moi, les 1 500 000 francs. Le bon Geoffrey souffla dans ses joues. Diable, dit le prince. Vous êtes fou, mon bon, décida Commérol. Guilloja riait dans sa barbe teinte. C'est comme cela, dit tranquillement Saladin, à prendre ou à laisser. Avec 1 500 000 francs, fit observer Samuel, on achèterait toute la serrurerie de Paris. « Vous n'y êtes pas, » riposta Commérol en riant. « Notre nouveau maître veut nous faire payer ainsi le jeune et joli sang qu'il va infuser dans nos vieilles veines. »« Juste, » dit Saladin, « je ne vous défends pas de trouver cela cher, mais c'est mon prix. »« Et si ce n'est pas le nôtre, » dit Commérol en le regardant fixement. Ses joues étaient écarlates jusqu'aux oreilles. Saladin soutint son regard et répondit froidement. « Ce serait fâcheux, monsieur Commérol. J'ai mis dans ma tête que vous en passeriez ce soir par mon caprice, sinon je vous abandonne. » Les membres du club essayèrent de rire, mais Saladin répéta en scandant les mots « Je vous abandonne. » D'abord, et puis je me fais une carrière dans l'administration en découvrant votre poteau rose. Il était assis, comme nous l'avons dit, vis-à-vis d'un groupe formé par le docteur Geoffrey Commérol et le prince. En face de lui, au-dessus du divan qui servait de siège à ces messieurs, il y avait une grande glace. Derrière lui, touchant le dossier de sa chaise, se trouvait une table qui soutenait un flambeau. Au-delà de la table se tenait Adibal Guilloja, tantôt immobile, tantôt se promenant de long en large. Aux dernières paroles prononcées par Saladin, celui-ci vit les yeux de ses 4 interlocuteurs se fixer simultanément sur Guilloja. Saladin savait où était Guilloja. La glace fumeuse et tachée lui renvoyait confusément l'image de l'Italien qu'il ne perdait pas un seul instant de vue. Quelque chose brilla dans la main droite de ce dernier qui fit un pas vers la table. Les yeux des 4 membres du club des bonnets de soie noire se baissèrent en même temps et le bon Geoffrey eut un tout petit frisson. « Tiens, » dit Saladin, « le vicomte Annibal n'a pas perdu l'habitude du stylet napolitain. » Il tourna la tête négligemment. L'Italien qui marchait sur lui s'arrêta court. Mais quand Saladin reprit sa position vis-à-vis de ses 4 interlocuteurs, la scène avait changé complètement. Chacun d'eux, même le bon Geoffrey, avait le couteau à la main. Et que dirait monsieur Massenet? Demanda Saladin en riant. Massenet ne dira rien, répondit Commérol qui se mit sur ses pieds. Il en mange, et tu es frit, mon petit. Sans se retourner, Saladin prit sur la table le flambeau qui était à la portée de sa main et l'éleva au-dessus de sa tête. Au même instant, trois petits coups furent frappés au carreau de la fenêtre qui donnait sur la ruelle. Les couteaux disparurent comme par enchantement, et tout se tut, même le bruit des respirations. « Les volets ne sont donc pas fermés aujourd'hui ?» dit tout bas Commérol au bout de quelques secondes, en ponctuant sa phrase avec un juron du midi. « Comment ils ne sont pas fermés ?» ajouta le bon Geoffrey. « Ils étaient fermés, » répondit Saladin, « bien fermés, mais j'ai fait mon tour avant d'entrer, avec papa. On a quelques bons amis, ici près. »« Bonjour les vieux !» cria une voix au dehors dans la ruelle. « Ça va-t-il comme vous voulez ?» Commérol se précipita à la fenêtre et l'ouvrit. « Qui est là ? » demanda-t-il. Personne ne répondit. Son regard interrogea la ruelle sombre qui semblait déserte. Pendant cela, de cette main qui naguère tenait le couteau, le bon Geoffrey prit les doigts de Saladin et les serra affectueusement en disant tout bas « Toute cette petite machinette est remarquablement intelligente et je vous donne ma voix de tout mon cœur, mon biribi. » Le prince qui avait fait le tour de la table vint toucher l'épaule du docteur Samuel. « Vous demandiez un homme, dit-il, en voici un. »« On ne sait pas, répondit le docteur, on va voir. » Saladin répondit au bon Geoffrey. « Ce n'était pas malaisé à exécuter, vous êtes des bandits âgés et mûrs pour la retraite. Je m'y serais pris autrement si vous aviez eu 20 ans de moins. » « Fermez voir la fenêtre, papa Commérol, ajouta-t-il. Vous êtes encore le plus vert de la bande, et en cherchant bien, on vous trouvera du nerf sous la peau. Mais, parole d'honneur, vous aviez besoin d'être remonté. Vos 5 couteaux étaient si drôles, je me suis cru au salon de cire. » Commérol restait auprès de la fenêtre et ne cachait point sa mauvaise humeur. « Tu dis vrai, petit, prononça-t-il entre ses dents. Voilà 15 ans, tu n'aurais pas eu le temps de lever la chandelle. » Saladin lui envoya un baiser. « Mon bon, dit-il, nous ferons une paire d'amis, nous deux, quand tu m'auras juré obéissance. Voyons, ne nous endormons pas, faites semblant de délibérer un peu, mais vénérable, pendant que je vais faire semblant de ne pas écouter, et puis vous me donnerez votre réponse officielle. » Il s'éloigna du divan et alla prendre le journal des villes et des campagnes à l'autre bout de la chambre. Les membres du club des bonnets de soie noire se formèrent en groupe et le bon Geoffrey dit de sa voix la plus caressante « Annibal Guillaujat, respecté maître, je vous demande la parole, vous me l'accordez, merci, vous êtes dégommé, mon garçon, il n'y a pas grand mal. » Guillaujat répondit à voix basse quelque chose que Saladin ne put saisir. La délibération dura jusque 2 minutes, après quoi l'éloquent Commérol, rendu à toute sa belle humeur, s'avança vers lui à la tête du club et lui dit « Maître, le scapulaire est à vous. » Guillaujat fit mine d'entr'ouvrir sa redingote. « Garde, garde, mon garçon, lui dit Saladin, ce sont des formalités surannées. Nous ne détruirons rien de vos anciens usages, destinés à frapper l'imagination grossière de la populace. Mais quant à nous autres, nous sommes au-dessus de tout cela. Est-il bien entendu que vous me nommez père à tous et habit noir en chef à l'unanimité? Levez la main. » Toutes les mains s'étendirent, même celle de Guillaujat. « Bien, dit Saladin, qui se redressa et les enveloppa d'un regard dur. Vous n'aimez pas les discours, je supprime le sabre que j'avais compté d'avaler pour ma bienvenue. C'est fini de rire, asseyez-vous, nous allons causer. »